22h à Paris, 23h à Damas et Fallujah, l'heure de votre journal en français facile. Bonsoir à tous et bienvenue.
Sonia Ghezali.
Et ce soir, à mes côtés, Catherine Zemmoury pour vous présenter cette édition. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Sonia.
Bonsoir à tous. À la une de ce vendredi 27 mai, Barack Obama à Hiroshima au Japon pour rendre hommage aux victimes de la bombe atomique. C'est la première fois qu'un président américain se rend sur place dans la ville atomisée il y a 71 ans.
Des dizaines de migrants sont portés disparus au large de la Libye. Leur navire a chaviré. Ce drame s'ajoute aux deux autres survenus ces dernières 48 heures.
En France, les syndicats ne décolèrent pas. Ils sont nombreux à appeler à une nouvelle journée de mobilisation contre le projet de loi travail. Une loi que François Hollande défend avec fermeté. Ce soir, des manifestants ont investi une salle municipale à Rennes.
Il était le père de l'Airbus, il avait aussi fondé une société d'affichage publicitaire. Jean-Claude Decaux est mort à l'âge de 78 ans. Vous découvrirez son portrait à la fin de ce journal.
Le journal en français facile.
La visite est historique à Hiroshima. Pour la première fois depuis le 6 août 1945, un président américain a foulé le sol de cette ville du Japon.
Barack Obama était en effet ce vendredi dans le parc du Mémorial de la Paix à Hiroshima. Une visite en marge du sommet du G7. Il a rendu hommage aux 140 000 victimes de la bombe atomique, larguée il y a 71 ans par un avion américain, d'abord sur Hiroshima, puis trois jours plus tard sur Nagasaki. Le récit de cette visite avec Véronique Guémard.
Barack Obama a rendu un hommage aux victimes de la bombe atomique en commençant par ces mots. Il y a 71 ans, par un matin sans nuages, la mort est tombée du ciel. Un flash de lumière et un mur de feu ont détruit la ville et ont démontré que l'humanité avait les moyens de se détruire elle-même. Et ce jour-là, le monde a changé pour toujours, a-t-il insisté, sans pour autant présenter d'excuses au nom des États-Unis. Tout au long de son discours, le président américain n'a cessé de plaider pour un monde sans armes nucléaires, comme il l'avait fait à Prague il y a 7 ans, ce qui lui avait valu le prix Nobel de la paix. Pourquoi sommes-nous venu ici à Hiroshima pour se rendre compte de cette force lâchée sur cette ville, pour pleurer les morts. Leurs âmes nous parlent et nous demandent de regarder au fond de nous-mêmes. Nous ne sommes pas tenus de répéter nos erreurs, a poursuivi le président Obama. Il a rappelé la signature des traités pour éliminer les armes nucléaires. Mais chaque nouvelle vague de violence nous rappelle que rien n'est jamais acquis, a-t-il souligné. Ceux qui sont morts ici sont comme nous. Les gens ne veulent plus de guerre. Ils préféreraient que la science soit utilisée pour améliorer la vie des hommes et non pas pour l'éliminer. Le président américain a terminé cette visite historique en serrant la main d'un survivant d'Hiroshima.
Un bateau de pêche chargé de migrants a chaviré en mer Méditerranée aujourd'hui.
135 personnes ont été secourues, 45 corps ont été récupérés au large de la Libye. C'est ce qu'indique ce soir la marine italienne. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Le scénario se répète. Il y a 2 jours, déjà un premier navire a chaviré. 550 personnes ont pu être secourues.
Hier, un autre drame identique a entraîné la mort d'une vingtaine de personnes.
3 naufrages en 3 jours, c'est très inquiétant, s'alarme la porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, qui précise que les bateaux de pêche utilisés par les migrants sont de très mauvaise qualité. Depuis le début de la semaine, près de 10 000 migrants au total ont été secourus en mer. 7 démissions maintenant en Israël, celle du ministre de l'Environnement. Il quitte le gouvernement car il s'oppose à l'arrivée d'Avigdor Lieberman. Cet ultranationaliste a été nommé à la Défense. À Jérusalem, Muriel Paradon.
Le pays a le droit d'avoir un gouvernement de droite, mais je ne crois pas qu'il soit juste de former un gouvernement extrémiste, a déclaré Avi Gabay, le ministre de l'Environnement démissionnaire qui appartient à un mouvement de centre-droit. Selon lui, l'arrivée dans la coalition d'Avigdor Lieberman, un ultranationaliste connu pour ses déclarations anti-arabes, va exacerber encore plus le radicalisme dans la société israélienne. Avi Gabay dénonce également la décision de nommer Lieberman au ministère de la Défense, c'est faire fi parle-t-il de l'importance de la sécurité de l'État ? Lieberman n'a pas l'expérience de son prédécesseur Moshe Yalon, qui était un ancien chef d'état-major de l'armée. Yalon a lui-même claqué la porte du gouvernement il y a une semaine en dénonçant la mainmise d'extrémistes dangereux sur le pays. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait entrer les ultranationalistes dans son gouvernement, déjà très à droite, pour consolider sa coalition qui n'avait qu'une seule voix de majorité au Parlement. Mais sa décision continue de provoquer des remous. Muriel Paradon, Jérusalem, RFI.
Il est 23h à Kiev. Nadia Savchenko a donné sa première conférence de presse depuis sa libération il y a 48 heures.
Et la pilote ukrainienne est de retour dans son pays natal. Elle a passé ses deux dernières années en prison en Russie, de nouveau chez elle en Ukraine. Elle voit son avenir engagé en politique, Stéphane Siouan.
Hier encore, elle se débarrassait de son statut de prisonnière en retrouvant sa famille dans l'intimité. Et ce matin, Nadia Savchenko a revêtu ses habits de députée et elle a plongé dans le grand bain. Durant sa captivité, la jeune femme a été élue au Parlement sur la liste de l'ancien Premier ministre, Yulia Tymoshenko. La pilote l'avoue elle-même, elle doit tout apprendre en politique, mais durant deux heures, face aux journalistes, elle a fait preuve d'une étonnante virtuosité. Elle a également reconnu que son aura dans la société lui conférait désormais un statut particulier.
Quant à devenir présidente, tout ça est un peu ambigu. Mais si vous, les Ukrainiens, vous avez besoin de moi comme présidente, alors je le deviendrai. Mais il faut aussi que nos concitoyens apprennent à voter honnêtement. Et je ne vous dirai pas que je veux être présidente, parce que moi, ce que j'aime, c'est voler en avion. Mais s'il le faut, je choisirai aussi ce chemin et j'y travaillerai de tout mon cœur.
Nadia Savchenko a poliment remercié Petro Poroshenko d'avoir contribué à sa libération. Mais pas plus que n'importe qui d'autre, a-t-elle immédiatement précisé. Il est fort à parier que dans les semaines à venir, la jeune femme, nouvelle héroïne des Ukrainiens, fasse preuve de la même intransigeance avec le président qu'avec ses juges du fond de son tribunal russe. Stéphane Siouan, Kiev, RFI.
À Raqqa, en Syrie, la coalition internationale intensifie ses frappes contre le groupe État islamique. 150 raids ont été menés ces trois derniers jours. Des frappes aériennes sont aussi menées en Irak. La coalition annonce avoir tué le chef des combattants du groupe armé à Fallujah. Les forces irakiennes ont lancé une offensive terrestre pour reprendre le contrôle de la ville aux mains des terroristes.
La grogne sociale face à la loi travail s'amplifie en France et François Hollande maintient son soutien au texte décrié.
Je tiendrai bon parce que je pense que c'est une bonne réforme. Réaction du chef de l'État au lendemain de la 8e journée de mobilisation contre le texte, alors que les appels à une 9e journée de mobilisation se multiplient. La date est fixée au 14 juin. Justice en France avec l'affaire de la chemise arrachée du directeur des ressources humaines d'Air France. On se souvient de ces images qui avaient été largement diffusées à la télévision et sur Internet en octobre dernier. Eh bien, elles montraient le DRH de la compagnie aérienne française prise à partie par des salariés. 5 d'entre eux sont accusés de violence en réunion. Tous étaient convoqués aujourd'hui devant le tribunal de Bobigny. Le procès a finalement été renvoyé en septembre. La disparition de Jean-Claude Decaux, l'inventeur de l'Airbus, s'est éteint à l'âge de 78 ans. Il avait fondé le groupe d'affichage publicitaire J.C. Decaux que l'on trouve partout dans les transports en France. Son portrait signé Marine de la Moissonnière.
On le connaît surtout pour les abribus, mais Jean-Claude Decaux, c'est bien plus que cela. C'est le vélo en libre-service à Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Nantes, les sanisettes de la capitale française et surtout les panneaux publicitaires partout dans le monde, notamment en Afrique. Le groupe qu'il avait fondé il y a 60 ans, alors qu'il n'avait que 18 ans, se concentre d'abord sur les publicités au bord des autoroutes. Le concept plaît, les clients accourent, mais les taxes sont trop importantes. J.C. Decaux se lance alors dans le mobilier urbain avec cette idée géniale des abris de bus sur lesquels il placarde ses propres affiches publicitaires, des affiches intégrée dans la structure. On est en 1964 et le succès est immédiatement au rendez-vous. Decaux ne sera jamais détrôné. Autodidacte, passionné d'aviation, Jean-Claude Decaux passe la main à ses deux fils en l'an 2000. Il reste président du conseil de surveillance jusqu'en mai 2013. Avec 4,6 milliards d'euros, l'homme d'affaires était la 14e fortune de France. Le groupe Decaux emploie 12 300 personnes dans 70 pays.
Marine de la Moissonnière, et c'est la fin de votre journal en français facile. Merci à Pierre Desprat aux manettes. Merci à vous, Catherine Zemmoury.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée à tous et restez avec nous sur RFI. Il est 22h10 à Paris.